Aligre FM.
Donner du sens au mot liberté.
En toute indépendance et sans publicité.
Pour continuer cette aventure, et parce que l'indépendance a un prix,
soutenez et relayez notre campagne de financement participatif en vous rendant sur le site de la radio et sur les pages Facebook, Twitter et Instagram d'Aligre FM.
Aligre, ça fait 40 ans que ça dure.
Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1. Nous sommes mardi matin et ce matin nous avons la chance et le plaisir de recevoir Nicolas Comand qui va venir nous parler de ses chroniques d'admiration. Donc c'est un livre qui est paru chez Chic Média Édition et Média Pop et qui s'appelle « Chronique du temps qui passe » et qui comprend une quinzaine de rubriques, de chroniques. Mais dans un premier temps, nous allons entendre Vincent Vanoli qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Les chevaux », qui vient de sortir un livre à l'association. À toi, Vincent.
Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans « La vie est un roman ». Je suis Vincent Vanoli et je vais vous parler de ma bande dessinée « Les chevaux ». Alors, c'est une bande dessinée que j'ai terminée en août 2019. J'ai mis un an à peu près à dessiner. Alors, il faut dire qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé cette bande dessinée, je venais de sortir de deux projets qui ont fait des livres, qui étaient des livres assez bavards. Enfin, il y avait un livre de résidence où je suis parti dans le Morvan pour enquêter, me promener, me balader, rencontrer plein de gens. Donc, ça a forcément donné beaucoup de pages avec beaucoup de choses à dire. Et puis, j'ai sorti aussi au même moment un livre qui était une espèce de pastiche de roman russe qui s'appelait Smirniakov, avec beaucoup de personnages, des péripéties, des histoires de famille comme dans les romans russes. Donc, bref, des choses bavardes avec un découpage, avec beaucoup de cases dans les pages. Et puis des dessins qui étaient quand même assez minutieux. Alors là, j'avais besoin de prendre l'air, d'ouvrir un peu les fenêtres et puis de dessiner autrement, de composer mes pages autrement. Alors il faut dire que j'ai la chance de publier dans les maisons d'édition indépendantes qui ne m'imposent pas de reprendre des personnages, de travailler dans tel ou tel genre. Et je suis libre de rebondir après un album sur quelque chose de complètement différent. Donc, moi, la bande dessinée, c'est quand même un territoire où je veux être libre et pas me sentir les pieds et les mains liées. Et je ne fais pas ça pour me contraindre, c'est vraiment quelque chose qui doit rester libre. Alors, après, néanmoins, c'est deux histoires qui étaient bavardes, donc j'avais besoin d'un peu d'espace. Donc, j'ai commencé des pages sur un format A4 avec deux cases par page. Donc, avec deux cases par page sur un format A4, j'avais de la place pour pouvoir dessiner autrement, faire des cadrages avec des plans plus serrés, avec des personnages qu'on verrait en plus grand. Et puis, de la même façon, de m'attacher au décor et aux atmosphères et aux dessins, aux textures, à la matière, pour que le rapport à la lecture soit différent par rapport à une bande dessinée telle que j'avais fait avant, où où c'est plus l'histoire et puis le scénario qui est important. Là, il n'y avait pas d'idée de scénario. D'ailleurs, je suis parti vraiment au hasard. Alors parfois, quand je commence des histoires, je commence en ayant des idées pour 4-5 pages ou 10 pages. Mais là, je suis parti vraiment sans aucune idée et je suis parti sur l'idée d'un cheval qui parcourt les dunes sur le bord de la mer avec du vent. Alors bon, un cheval au galop, c'était peut-être aussi ça, la métaphore de mon envie de faire quelque chose de libre et puis de dégager. Et je suis parti vraiment au hasard comme ça, puis petit à petit, bon, au fur et à mesure du dessin, les idées, elles viennent. Et quand je suis bloqué, je m'arrête quelques semaines, quelques jours, le temps de trouver une suite. Et là, bon, alors ce cheval qui galope rencontre d'autres êtres, d'autres animaux, en particulier des êtres mi-hommes, mi-chevaux, ou des êtres mi-chevaux, mi-hommes. Puis ensuite, une curieuse femme qui sort d'un bateau en naufragé et qui apparaît, qui ressemble à Mary Poppins. Alors, je ne sais pas, les idées me viennent comme ça. Donc, une Mary Poppins apparaît comme ça dans l'histoire et se met à intervenir avec les chevaux. Et il se passe un événement un peu extraordinaire, c'est que tout d'un coup, le cheval se met à diminuer en taille, à rétrécir, à se retrouver minuscule. Donc là, ça a été vraiment le point de départ pour, après cette longue introduction d'atmosphère, j'avais envie de dessiner des dunes, du vent, qu'on sente un ciel bas, qu'on sente la matière, qu'on écoute la bande sonore, qu'on en écoute les vagues, puis qu'on entende le sable crisser. Enfin, j'avais besoin vraiment d'avoir des dessins assez larges avec de la texture qui puisse donner au lecteur en fait une sensation qui soit celle du toucher, pas seulement de la vue, de l'odeur peut-être. Donc après cette introduction, donc ce qui m'a lancé dans l'histoire, c'est le cheval qui tout d'un coup, miraculeusement, magiquement, se retrouve minuscule, comme dans une fable, comme dans Alice au pays des merveilles. Et c'est à partir de là que j'ai su comment orienter le récit. Je ne savais toujours pas quel allait être précisément le scénario ou ce qui allait arriver, mais je veux dire, quelle allait être la matière du récit, c'est-à-dire qu'on allait être entre le réel, donc des décors tout à fait néo-réalistes, je dirais, et puis l'irréel, le fantastique, avec cette diminution de taille du cheval qui nous faisait pénétrer bon, bah, dans une histoire qui allait être féerique. Voilà, donc je suis parti comme ça sur ces idées. Et puis, je me laisse guider par les pages. C'est les êtres qui sont rencontrés sont de l'ordre de la mythologie. Alors, je ne vais pas raconter ce qui se passe dans l'histoire, mais à partir d'un moment donné, il faut quand même essayer de mettre les choses au clair, parce qu'on ne peut pas avancer dans une histoire totalement à l'aveuglette, bien que j'aime cette idée de partir à l'aveuglette et puis laisser surgir peut-être des choses à mon insu. Mais j'aime qu'une histoire soit quand même une petite mécanique parfaitement huilée, donc je fais vraiment des pause régulière pour voir un peu quels sont les tenants aboutissants de ce que j'ai déjà dessiné, pour voir comment orienter la suite de mon histoire pour que la mécanique soit bien. Donc ces créatures, hommes, chevaux, femmes, chevaux, chevaux, hommes, chevaux, femmes, qui apparaissent et qui vont rencontrer cette espèce de personnage féminine, la Mary Poppins, il fallait leur donner une raison d'être et petit à petit s'imposer l'idée que ils allaient être en fait l'incarnation d'une espèce de souvenir, de désir amoureux d'un vieil homme. Et l'histoire, à partir de ce moment-là, était sur ses rails. J'ai voulu cette histoire, on va dire un petit peu néo-réaliste ou un peu fantastique ou irréel, mais quand même, je voulais aussi qu'il y ait du grotesque et puis un petit peu d'humour. C'est un humour qui est toujours en filigrane dans mes histoires, même si les histoires peuvent paraître sombres, grises, plombées. Et c'est un humour très décalé, très, très subtil. On peut le sentir peut-être à travers les attitudes et puis de ces hommes chevaux qui n'arrêtent pas de se chamailler. Je voulais vraiment qu'ils soient un petit peu comme des voyous, des adolescents qui fument des clopes et qui se donnent des claques. Et voilà, donc j'ai essayé de faire dans cette histoire. Et crois que je pourrais dire d'autres choses encore, mais peut-être que m'arrêter là et ne pas trop en dire, ça pourrait coller.
Merci à toi. Donc c'était Vincent Vanoli qui nous a décrit succinctement son nouveau livre Les Chevaux, paru à l'association. Et maintenant nous allons parler de la chronique du temps qui passe avec Nicolas. Je ne répondais pas des conneries. Nicolas Comment. Et bonjour Nicolas.
J'aime bien l'introduction. Salut, Yves.
Salut. Et donc je vois qu'il y a André S. Labarthe dans la liste des exercices d'admiration. Et donc, ces exercices d'admiration, tu les as faits pour deux revues qui sont Novo et Chic Média. Et Bruno Chiban, qui s'occupe de Chic Média, faisait un petit périodique qui s'appelait Limelight, tu le
Bien
connaissais?
sûr, ouais. Limelight, ouais.
Limelight.
Ouais, je disais ça au
Et
Beaux-Arts.
il y avait Labarthe dedans.
Ouais,
Et
complètement.
René Hennie, et j'ai un très bon souvenir de cette petite publication qui
Ouais,
était
c'était bien.
gratuite et qui était quand même très très bien, qui était
C'est
qui
ça, mais
m'a,
c'est
ça
comme ça que j'ai.
m'impressionnait beaucoup.
Ouais, que j'ai rencontré Bruno, la bande, un peu. C'est que cette revue arrivait aux Beaux-Arts de Lyon.
Ah oui.
Et je trouvais vraiment super les. Il avait fait aussi le bouquin sur André qui s'appelait Tempo.
Sur la barre donc,
Sur Labarthe.
ouais.
Très bonne compilation de textes, d'interviews, d'entretiens. Et ça a été une très belle rencontre.
Je sais pas pourquoi Slabart me fait penser à Jeanine Bazin,
Ah
la
ben
veuve.
parce qu'ils ont ensemble
Ouais.
créé la collection Cinéastes de notre temps.
Ah oui, c'est ça, ouais. Parce que c'était la
Documentaire.
veuve d'André Bazin, donc créateur des Cahiers du cinéma. Ah oui, c'est ça, donc oui,
Ouais.
c'est le. Donc ça
Toute la
c'est
collection de films magnifiques.
magnifique, ouais.
Ouais,
Très
grand.
très grande chose, ouais, très très grande chose.
Ouais.
Et donc, avant l'émission, on parlait d'un des exercices d'admiration que tu as fait, celui sur Marco.
Ouais.
Et donc, qui est Marco?
Marco, il est très connu comme le cinéaste des idoles, pour tout ce film un peu percutant.
Donc, c'est un film de 1967.
Je sais pas la date
C'est
exacte, ouais.
67, je pense, ouais, avec Bulogier, Jean-Pierre Calfon et
Clémenti.
Clémenti. C'est quoi le prénom de Clémenti? Et donc, oui, qui était très pop, qui est très, enfin, vraiment très, très pop. Et Marco vient du lettrisme. Et
C'est
donc,
ça.
dans cet exercice d'admiration, tu parles de Debord, me disais-tu. Et qu'est-ce que
Bah.
tu dis de Debord, alors, dans cet
Parce qu'en
exercice?
fait, la base finalement de cette commande-là pour la revue Novo, ça fait suite à un livre que j'avais publié aux éditions Filigrane en 2019, qui s'appelait Journal à rebours. Et Journal à rebours, je pense que je l'ai fait au moment où je relisais Debord, le Quarto Guy Debord, et où j'ai vu ce film magnifique qui s'appelle Du passage de quelques êtres à travers une très courte unité de temps. Je ne sais pas si ça te parle, c'est 20 minutes, où Debord filme ses amis du Café Moineau, avec une voix off très mélancolique, c'est en 57. Bien avant, juste avant À bout de
Yes.
souffle et La Nouvelle Vague, c'est très très beau. Il y a cette conscience chez lui, et avec l'international situationniste, qu'il faut capter cette jeunesse, cette amitié, cette beauté des choses qui vont disparaître. Et comme j'ai eu une fille l'année d'avant, enfin 2 ans avant, je sortais beaucoup moins, je faisais beaucoup moins de photographies à l'extérieur, je voyageais moins. J'ai commencé à scanner des vieux négatifs que j'avais réalisés quand j'avais 19, 20 ans. Et que je n'avais jamais tiré. Et de cette histoire, j'ai aussi ouvert des cartons où traînaient des vieux carnets de la même époque. Et j'ai réuni les deux, j'ai fait une sorte de journal à l'envers, quoi, à rebours, que j'ai appelé à rebours, qui parle de ça, de mes amis, de mes rencontres, de mes amours, de mes emmerdes. Et ça a beaucoup plu à Bruno Chiban et à Philippe Schweyer. Ils m'ont dit, tu veux pas faire la suite, mais sur tes rencontres artistiques, les gens qui t'ont marqué. Et tous les trois mois, j'écrivais dans Novo une chronique, un portrait, quoi. Alors parfois lié à l'actualité, parfois absolument pas. Souvent de souvenirs. En plus, c'est pas mal de chroniques que j'ai écrites pendant le confinement, parce que ça a paru pendant deux ans, 2020-2021. Donc je puisais un peu dans mes souvenirs comme ça, et y a des choses concomitantes. Moi, par exemple, Christophe venait de disparaître quand j'ai écrit la chronique, donc les souvenirs étaient à vif un peu, mais parfois c'était des Yves Simon, une rencontre qui datait d'une dizaine d'années. Et ça a été un grand plaisir, en fait, de tenir ces chroniques régulièrement dans la revue. Voilà. Donc on les a réunis là.
C'est amusant parce qu'il y a eu un gap. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai lu, je crois, à l'antenne entièrement ta chronique sur Christophe.
Ah bon ?
Quand il a disparu. Et après, je ne l'ai pas diffusé. Je ne sais pas, l'émission, ça ne fonctionnait pas. Je crois que j'ai lu un numéro de Novo pratiquement pendant une heure. Puis ouais, après, je ne l'assumais pas. Je ne l'ai pas envoyé à Philippe. Et puis, je ne sais pas, c'est devenu rien. Mais d'accord. Donc, celle-là, je l'ai lue très attentivement.
Ben oui.
Et donc, on interprète aussi quand on lit, donc on a une espèce de... Ça devient sa chose, enfin, on a une certaine... On rentre dedans, quoi. On joue
le
jeu.
Elle était assez émouvante, je crois, cette chronique-là.
Puis le personnage était vraiment... C'est un personnage, donc au niveau de sa vie quotidienne, enfin,
À un moment, c'est pas qu'un chanteur, quoi, ce qu'on appelle un artiste qui se cachait en Christophe. Il peignait aussi des sortes de velléités de peinture comme ça, mais très sérieux, toujours très investi, très pur, très. Donc voilà, on était forcément embarqué par Christophe.
Je l'ai vu à un spectacle de flamenco à Créteil, je me rappelle, et il avait une aura, enfin il était atypique, quoi. Donc là, il avait les sentiacs, le gilet, enfin, il avait l'air de sortir d'un autre spectacle, mais un peu kitsch par le rapport à ce qu'on avait vu.
Une sorte de désesseinte contemporain, entouré de ses objets dans son appartement du boulevard Montparnasse. C'était assez magique, quoi. Et c'est super, les gens qui jouent leur propre rôle un peu. C'est toujours, on n'ose pas les autres, tu vois, on est tous un peu normaux par rapport à ça. Il avait cette force d'être celui qu'il voulait être, sans doute. Même s'il a mis longtemps, je pense, pour y arriver, quoi. Mais c'était un vrai personnage, quoi, qui débarquait, très drôle en plus.
Et donc, dans les gens qui me sont... Enfin, je vois qu'il y a un de tes portraits avec des gens que je ne connais pas du tout, c'est Lou Emahu.
Ouais, alors Lou Emahu, c'est via Jacques Higelin, en fait, parce que j'ai fait un livre sur Higelin.
Une biographie.
Une biographie, ouais, qui m'a été commandée par Stan Cuesta, directeur des éditions Indocile, chez OBK Gallimard, un gros projet. Et j'avais jamais écrit sur la musique et même de biographie comme ça. Et en fait, Mahu était le meilleur ami d'Higelin.
Je sais qui c'est
le percussionniste.
Oui, j'ai fait de la figuration avec lui dans un film expérimental. Voilà. Ah oui, il avait fait l'émission à la mort de Elno.
Ah, peut-être.
C'est lui qui passait à Arte.
Exactement.
Il parle pas, le mec. Et il a présenté l'émission.
Ouais, il a été présentateur d'une émission pendant des années.
J'étais avec lui dans un truc dément, de Montepetit.
C'est un super personnage vraiment fascinant. Et Lou et sa compagne, ils ont un projet musical ensemble, surtout elle d'ailleurs. Donc voilà, parce que je parle aussi de gens moins connus, quoi. Mais il y a des poètes, des écrivains, des cinéastes.
C'était le Drumis des Négresses Vertes.
Puisqu'il
fait le truc de Elno, mais c'est possible. Hein.
Ouais, c'est tout à fait possible. Parce qu'il a invité plein de gens dans cette émission à une époque. Il y avait un générique où il caressait une percue comme ça. Il a joué dans des films d'Enki Bilal aussi, Bunker Palace Hotel. C'est aussi un poète dans son genre, Mahu.
Un type sympathique, oui.
Ouais.
Nature, alors, contrairement à Christophe, c'est l'autre pôle.
Ouais, je sais pas, il y a aussi une forme de dandisme chez Bahut, mais...
Et quelqu'un qui était ivre-mort sur ce tournage, genre aussi un mec en Santiago, je sais plus qui c'est, mais par timidité, et qui s'est endormi sur une moto, enfin c'est...
Ah bon, oula, dangereux ça.
Et Philippe Pascal?
Philippe Pascal, ouais, bien sûr.
C'est qui Philippe
Pascal? Marc Itzane, tu connais pas?
Ah oui, bien sûr, ouais, bien sûr.
Marc Itzane, chanteur de ce mythique groupe, et aussi de Marc Seberg, le groupe Marc Seberg. Et voilà, et j'ai aimé le rencontrer aussi, Philippe Pascal. C'est quelqu'un que j'écoutais quand j'étais tout petit, quand j'étais ado, et qui me paraissait comme ça, comme un lointain phare breton. Alors, enfin, situé en Bretagne, puisque c'est Rennes. Et hein, il était revenu, entre guillemets, parce que quelqu'un qui a un peu disparu dans les années 90. Et puis il avait un très beau projet qui s'appelait The Blues Train Choir. Et puis voilà, on s'est rencontrés à cette époque. Et puis, alors malheureusement, il est mort aussi, lui, il y a quelques années.
On va écouter un petit morceau de musique. Et comme ça, ça nous mettra dans l'ambiance. Donc, le Gérard Manset, tu le vois ? Qu'il est loin.
J'aime bien quand tu dis Mancette.
Il est loin.
Et donc voilà, ça nous met bien dans l'ambiance du livre, bien Gérard Manset. Donc.
Ouais, chronique du temps qui passe, qu'il est loin le temps devant nous. Quoi. J'ai pensé, comme tu m'as demandé, quelle chanson passée. Puis comme il est dans le livre, j'adore cette chanson. C'est vraiment une sorte de... C'est assez unique, je trouve. Une espèce de légèreté nostalgique, très spatiale. Qu'ont les chansons de Manset, surtout celle-ci, c'est le pur son du studio de Milan, de Paris, quoi. Il y a un truc un peu presque d'artisanat. J'aime beaucoup cette chanson, je la trouve très belle, elle porte quelque part.
J'ai un livre de lui, c'est sur en Thaïlande, je pense.
Possible, ouais, Royaume de Siam.
Royaume de Siam.
Très bel album aussi, Royaume de Siam.
Ah, oui.
tu connais, non?
Oui, bien sûr. Et le livre est assez impressionnant, mais donc il, avec le wokisme aujourd'hui, il risque d'avoir beaucoup d'ennuis.
Ah ouais, je sais.
Et s'il
ouais,
est des petites gamines, mais quand même, ça, ça frémit, c'est assez
ah
beau.
Ouais. Et je me souviens pas trop de ce livre.
Et je me souviens,
il
moi,
a fait depuis beaucoup, beaucoup d'autres livres. Ouais. Très, très beaux.
Et je me souviens de toute une génération de gens qui écoutaient Manset, qui étaient des gens qui étaient revenus de voyage et qui étaient un peu mélancoliques comme ça. C'était vraiment...
Ah ouais. Ouais,
c'était une espèce ouais, de Dylan, voyageur, Dylan ouais. De la France, quoi. Une espèce, enfin, un certain Dylan, parce qu'il y en a 50 des Dylan, mais...
Ouais, c'est drôle, c'est que je lui pose la question dans l'entretien. Est-ce que Dylan t'a influencé à un moment ou à un autre? Il me dit absolument pas, ouais. Je n'étais pas au courant, il y a une sorte de... Ils ont en commun le... La disparition, l'idée de s'effacer à un moment.
Puis je pensais au marquage générationnel, moi, tu vois, comme
ah bah ouais, complètement.
Pour une génération, like a Rolling Stones, c'est très, c'est ce qui m'a fait sortir, moi, par exemple, de la chanson française.
Ouais.
C'est-à-dire que je comprenais rien à ce qu'ils disaient, mais je n'avais plus après à écouter à Ferré, à Brel ou je sais pas, ou Brassens, ah ouais. Tout ça, ça me paraissait insipide et ennuyeux. Et ben Dylan, ça, c'était un livre, quoi. Tu vois, t'avais une espèce de...
Ah ben, c'est si,
c'était
ouais.
Massif.
Il y a un flot de quatre...
Un flot de...
Avec... Quatre pages de texte.
Ouais. Et puis pas de lien logique entre les phrases. Enfin, quelque chose de formidable, la littérature. La
marqué grande... par la Beat Generation. Ben,
voilà, ou à cette époque, formidable, ouais. Vraiment.
Très fort. J'ai écrit un livre sur Dylan aussi, qui s'appelle ouais. Dylan in Absentia. Le moment où il se retire après la tournée de 66... qui est assez houleuse.
Quand il est passé à l'électrification.
Il, ouais, y a 65 qui commence un peu, et puis après 66, c'est la tournée de Blonde on Blonde.
L'île de Wight.
Non, ah non, ça c'est bien après, mais entre ouais. L'île de Wight et la tournée de 66, il y a 7 ans de ouais. Disparition.
Formidable.
Où il va s'installer à Woodstock, il y a le fameux accident, il tombe de sa matchless, la moto, et il s'achète un atelier. À Burscliffe, qui est une communauté d'artistes, et il peint. C'est un peu, on parlait des peintures de Christophe, mais il se met à peindre, il se retire complètement du monde du spectacle, pour là aussi retrouver Guy Debord, au fond, tout se tient. C'est assez passionnant, cette période de sa vie où il réinvente un peu son écriture. Il va faire John Wesley Harding, je ne sais pas si tu connais cet album, très très beau.
Oui, bien sûr.
Et après... Effectivement, il fait une seule date. Il fait une date en hommage à Woody Guthrie, un seul concert, et ensuite l'île de Wight, mais pour emmener a priori sa femme et ses enfants en vacances. Sauf que il y a tout un, je sais pas, je crois que son fils a un accident quand il prend le bateau. Enfin, il fait ce concert, mais il est vraiment pas sorti des Basement Tapes, tu vois, de Big Pink, pendant 4-5 ans. Donc, il est tout en blanc, méconnaissable, très fragile pendant ce concert. Et Manset, il y a ce culte de la disparition aussi, je crois, de
la discrétion,
de la distance avec le spectacle. Et j'admire ça assez chez Manset. Et puis, il est photographe aussi. Alors nous, on s'est rencontrés à la Galerie Vue. On a exposé conjointement, donc ça a créé aussi une sorte de dialogue qui n'est pas que sur la chanson, quoi. Qui est aussi sur l'écriture, la photographie beaucoup, la peinture, il dessine. Et l'entretien est là-dessus très, très éclairant, je crois. Voilà pourquoi je voulais passer plutôt Manset qu'autre chose. Puis il n'y passe pas si souvent que ça. Et surtout, ses chansons des années 70 sont dans une mémoire collective, mais lointaine, quoi.
Oui, il n'appartient pas au mainstream. Il n'est pas...
Bien
c'est ni Gelin, ni Bachon, on n'a pas le...
Ouais, bah parce qu'il y a un retrait de la scène, il y a un refus. Il n'y a même pas un retrait, il y a un refus. De l'apparition publique, quoi, du concert, ce qui est assez unique, ce qui n'est absolument pas le cas de Dylan, mais je suis assez fasciné par ça, l'idée d'un auteur-compositeur qui ne fait que des disques. Et c'est vrai qu'il a voyagé, il sortait des albums, et ensuite il partait, quoi. À une époque, maintenant, il voyage moins. Mais, et donc, ça a aéré sans doute sa chanson. Il y a un air qui passe dans ses morceaux, je trouve. Moi, ça m'est arrivé longtemps après, parce que je ne suis pas de ta génération. Comme Dylan m'est arrivé longtemps après. Et la première fois que j'ai écouté un disque de Dylan, à 15 ans, quoi, c'était le best-of qui est le plus... Il est en veste marron, là, en veste de daim. Enfin, j'avais emprunté ça à la discothèque. J'ai vraiment eu l'impression que c'était de la musique inuite. Tu vois. tellement ça paraissait arriver de temps, d'autres temps, de temps, de continents perdus et de temps oubliés, quoi. C'est fou. Alors que c'est un. Et mais là, on est ici, on est assez dans un hors temps. Hein,
totalement. Alors totalement. Un truc. Ouais. Totalement, c'est un mais, enfin, c'est. Ouais, non, c'est suspendu hors du temps. C'est une espèce de miracle en lévitation. Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore. Très, très fragile. Et fragile depuis 40 ans. Donc
ouais, c'est ça.
C'est assez intéressant.
Mais moi, je me souviens.
Toujours au bord du gouffre.
Enfin, des toutes premières radios, c'était un énorme événement quoi, en France. Et puis j'étais allé à une première émission de radio avec, je crois, Dominique Sonic. Je ne sais pas si ça te parle, un artiste. J'ai un très beau souvenir de ça, de la FM, quoi. Voilà. Donc je suis content d'être là, c'est des paysans.
Je crois que c'est Jean Rouch qui disait ça, mais j'ai vu passer ça, là, juste dernièrement. Mais le fait de désinhiber les gens en ayant une caméra, parce que comme c'est en photographe, en fait, que tu as fréquenté tous ces gens dont tu parles.
Ouais, pour la plupart, pas forcément tous. Par exemple, Christophe, il m'avait proposé d'écrire, parce qu'entre-temps, moi, j'ai fait beaucoup de photographies, publié pas mal de livres aux éditions Filigrane, notamment. Ce qui m'a permis d'avoir une galerie. À l'époque, c'était la galerie Vue. Alors, Mancé, je l'ai rencontré comme ça. Mais conjointement, j'ai fait un EP en 2008 qui s'appelait Eslest, qui mélangeait des photographies de Berlin et 6 chansons sur Berlin. Et ça avait été produit par Jean-Louis Pierrot, le bras droit d'Étienne Daho, là, qui vient de produire son dernier album, l'artiste des Ballantins, qui a aussi travaillé sur Fantaisie militaire, avec Miossec, etc. Et en fait, j'avais fait une maquette grâce à Rodolphe Burger dans sa ferme et à son ingénieur du son, Joël Teux, à l'époque. Et j'avais fait effectivement des photos pour une pochette d'Yves Simon, qui est également dans le livre. Et j'avais passé une cassette, c'est pas une cassette, je caricature, un CD, à Jean-Louis qui m'avait produit ce premier ouvrage. Et en tout cas, ça a été entendu. Ce qui est drôle, c'est que dès 2008, Christophe m'appelle. On a mis longtemps à se rencontrer plus tard, mais il avait écouté la toute première chanson parue, voire même avant même que l'EP sorte sur MySpace, qui s'appelait Eslest, en me disant « j'aimerais bien bosser avec toi ». Et puis, je ne sais pas pourquoi, on ne s'était pas donné rendez-vous, il était très occupé, ça a mis quelques années. Et après, on s'est retrouvés en 2014, et là, il m'a invité sur son... Enfin, on s'est vus plein de fois, on a passé quelques nuits ensemble, comme pas mal de gens qui l'ont croisé. Et puis il m'a invité sur son bateau parce qu'il avait un petit voilier qu'il louait l'été à Port Grimaud. Donc je suis allé vivre dans son bateau, dans sa petite cabine, on dormait sur le bateau. C'est drôle pour bosser avec lui. Donc là, c'est pas par la photo, j'ai pas fait des photos de Christophe. Les photos qui sont là, enfin, je les ai fait, mais dans l'intimité, quoi.
Oui, il essayait de refaire le truc de Bergman et de Bachung.
Mais ouais, il m'avait dit, bah écoute, on va. Alors du coup, on travaillait sans travailler, c'était un peu son mode de vie. Et il m'avait dit ça, ouais. Tu sais, Bachung et Bergman, en fait, ils vivaient ensemble. Il avait l'impression, Christophe, que les chansons allaient tomber du ciel. Vraiment, ce sentiment. D'ailleurs, qui est commun, Mancy, il parle des chansons comme ça aussi. Il dit, je me lève le matin, je prends un café et boum, je note ce qui arrive. Gillane raconte ça aussi.
J'ai été voir des films de Bergman une fois à Saint-Denis, là, et il était là, donc Boris Bergman. Et il m'a beaucoup impressionné aussi par sa simplicité, puis la rondeur du personnage. Enfin, c'était vraiment formidable. C'est un mec qui a écrit des tubes monstrueux.
Et ouais, alors j'ai appris récemment que c'était pas tellement Bachung qu'il a. Ils ont écrit Bijoux ensemble, mais c'était Demis Roussos.
Bien évidemment.
Aphrodite Child.
Ouais. Et donc il a écrit pour Elvis Presley par exemple.
Ah mais ça je savais pas du tout.
Il raconte et puis il veut aller le voir et puis les autres lui disent n'y va pas, c'est un antisémite, c'est un sale con.
Ah ouais merde.
Donc il a fait une très belle carrière et le rapport avec Bachung est intense, enfin, c'est une vraie amitié.
Ah ouais.
C'est très impressionnant. Le résultat est très impressionnant. Là aussi au niveau des paroles c'est encore une mutation.
C'est vrai.
Higelin avait l'énergie, très bon parolier aussi, hein, parce que tout à fait.
Je raconte un peu ça dans le livre d'ailleurs, parce que moi il m'avait, Jacques, c'est une belle rencontre. Alors Jacques, je l'ai rencontré en lui proposant de faire des photos et en lui proposant de filmer l'enregistrement d'un album qui s'appelait Amor Doloroso que produisait Burger et Mahut d'ailleurs. Et Donc je me rappelle, je raconte ça dans le bouquin, l'autre là. Et Rodolphe me dit, bon, bah, demande à Jacques s'il est d'accord, quoi. Donc je me présente à Higelin et puis je lui dis, bah voilà, je fais des photos, est-ce que vous accepteriez que je documente en fait l'enregistrement du disque et que je filme et je lui ai laissé quelques livres et en fait on a dîné ensemble et le lendemain matin il m'a dit, écoute, j'ai regardé tes livres, je suis d'accord pour les photos, mais j'ai lu aussi les textes qui accompagnaient parfois les photos et j'ai besoin de quelqu'un comme toi pour m'aider à finaliser les chansons. Il m'a dit un peu en rigolant, si t'es d'accord tu seras mon scribe. Et puis comme ça, tu fais toutes les photos que tu veux, tu me montreras à la fin. Et ça a été incroyable parce que d'un coup, je suis rentré dans son processus d'écriture. Et c'était très dur pour lui de fixer, entre guillemets, ses vertiges, parce qu'il est, c'est un type de, un artiste de l'improvisation, absolument flamboyant et génial.
C'est un jazzman en fait. Il est...
Ah bah ouais.
Et puis Areski et Brigitte Fontaine, encore au niveau des paroles, là aussi, c'était tellement...
Ouais, Brigitte Fontaine, il admirait beaucoup Brigitte Fontaine.
C'était extraordinaire. Et c'est avec elle qu'il chante au début.
Au tout début, ouais.
Et ce qu'il dit, c'est quand même... Ça sort tellement du
et en fait, il était capable d'occuper pendant toute une nuit, par exemple La Vieille Grille, ou c'est comme ça qu'il séduit Canetti en improvisant, ou plus tard au théâtre du Ranelagh. Et sur scène, parfois, il débordait pendant 4 heures.
C'est un musicien, en fait. Ça fait une grosse différence. Compteur, avec
c'est un acteur aussi, Jacques. Ouais. Mais du coup, l'idée de fixer, d'enregistrer, d'imprimer le texte définitivement, entre guillemets, en l'enregistrant, c'était très dur pour lui. Parce qu'il avait des... Ce qui est logique, en fait. C'est assez logique. Il avait des chansons, des classeurs. Il traînait un grand sac. Je me rappelle, à un moment, on est partis ensemble sur l'île d'Oléron, une semaine pour bosser. Il avait, ses chansons faisaient 10-15 pages. Parce que justement, c'était écrit dans un flux continu. Donc elle faisait 20 pages pleines d'improvisation, de texte. Il fallait réduire ça à une chanson de 3 minutes, quoi. C'est-à-dire à parfois 20 vers. Il suait. C'était incroyable de le voir comme ça. Donc j'ai eu accès à un Jacques un petit peu, comment dirais-je, moins flamboyant que quand on l'a rencontré, tu vois, hors, après les concerts, où c'était passionnant. J'ai vu l'artiste vraiment dans toute sa sincérité également. Et ça, voilà, j'ai pris plaisir à écrire le livre aussi sur Higelin.
Oui, il y a des manifestations maintenant. Et donc lui, il allait dans les manifestations, je pense à ça, sur la musique. Ah, il essayait de les faire chanter en rythme et puis d'avoir un petit peu le sens de la musique, d'être un peu...
Mais il a accompagné la contre-culture française pendant quand même des décennies. Ah il est à la Sorbonne en 68, avec un piano pendant l'occupation de la Sorbonne. C'est assez étonnant, quoi.
C'est un personnage.
Ah ouais, vraiment. Ça a été une très belle rencontre. Alors, j'en parle pas dans ce livre-là, mais comme je l'avais déjà fait dans un précédent, quoi.
Et donc, Ariel Burgelin, alors ?
Ouais. Ariel, alors là, c'est la seule, je crois, artiste que j'ai contactée en faisant les chroniques, parce que tous les autres, c'est soit des souvenirs, soit c'est... Bon, c'est, bon, je lui ai dit, on se voit, et puis j'ai fait la chronique au présent. Et Ariel, j'étais... Bah, c'est deux choses. D'une part, elle était muse d'Helmut Newton, mais très marquante. Dans le parcours de Newton, il y a eu plusieurs muses, mais Ariel m'a particulièrement saisi. C'est par exemple Paula Woman, je ne sais pas si tu connais ce livre. Il y a une sorte de force en elle. Et puis parallèlement, elle est chanteuse, elle a fait plusieurs albums très beaux, qui sont restés un petit peu dans l'ombre, et j'ai trouvé ça un peu injuste. Donc, elle était sur les réseaux, je lui ai écrit et je lui ai dit j'aimerais bien qu'on se rencontre. Et je suis allé la voir pour ça et c'était étonnant, ouais, et très chouette. Donc voilà, c'est ça, c'est à la fois la muse de Newton et une poétesse aussi. Elle mêle les deux, quoi, elle est chanteuse, qui a fait des très beaux disques dans les années 90-2000. Donc, j'étais content de parler d'elle, d'échanger sur ça aussi, sur l'incarnation, Je lui ai écrit une lettre parce que du coup, elle est très secrète aussi, un peu comme tous les artistes auxquels je m'intéresse. Et plutôt que de... Enfin, je suis allé la voir, je l'ai fait un entretien avec elle, vraiment à la cool. Et puis, j'avais pas enregistré. Enfin, j'avais plus de batterie peut-être sur mon téléphone. Donc j'avais pris des notes, elle avait vite, mais elle parlait assez rapidement. Enfin. Et puis quand on se rend compte, j'aime pas trop mémoriser, trop figer les choses aussi. Ah donc, je lui ai dit, mais... alors, il y avait son mari qui avait enregistré. Lui, parce qu'au moment où j'avais plus de mémoire, il avait repris le... appuyé sur son téléphone à lui. Et j'ai demandé le MP3, je sais pas comment on appelle ça, le son. Elle ne me l'a jamais envoyé. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, mes souvenirs suffiront. Mais elle a fini par m'écrire une très longue, très belle lettre où elle s'explique quoi, sur son parcours, sur sa relation avec Helmut Newton. Et je lui ai répondu, en fait. La chronique, c'est ma réponse à sa lettre. Donc, c'est une longue lettre de... Je sais pas calculé le nombre de pages, mais voilà, une correspondance.
Ouais, c'est marrant, c'est forte personnalité. J'ai reçu là une jeune femme qui était assistante de Nan Goldin,
ouais,
et
bah
qui
ouais.
vient de faire un livre là-dessus.
Ouais.
C'est quand même... parce que je connais rien à la photo, mais là, par exemple, Nan Goldin, c'est...
Bah ouais.
Ça me fait penser à Bachung, Yves Simon, enfin tu vois, c'est...
Ah ouais, mais...
C'est ouais. un univers, c'est le fait d'avoir un univers personnel extrêmement fort, avec des marqueurs très forts, comme ça.
Ouais, moi je dirais plus Lou Reed, ou tu vois,
ah ouais,
mais en même
sûr,
temps, elle est après Lou Reed, mais c'est
évidemment,
80.
Évidemment,
mais il y a aussi cette conscience de saisir le temps qui passe, qui fuit,
ouais.
tu vois, dans son livre The Ballad of... The Ballad of Sexual Dependency, je crois que c'est ça, son livre un peu mythique. Bah, c'est ses amis aussi, ses amis, l'underground. Alors il se trouve que dans son cas, ils sont très, très particuliers. Il y a beaucoup de personnages de la nuit, quoi. Mais elle a eu cette... Finalement, c'est ça, avoir conscience que... Il faut mémoriser.
L'élan initial, c'est la mort d'une sœur.
Oui, il y a ça, bien sûr.
C'est sur l'histoire de la
tragédie,
de fixer le temps qui passe. Tu vois,
ouais.
c'est vraiment ce genre de choses.
Les photographes ont su faire ça, ouais.
On va écouter un petit morceau justement de notre ami Rodolphe Berger, La Chambre.
Thank you. croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence.
Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez, c'est bizarre. Quand vous n'auriez qu'un mot à dire,
dans la rue, la journée,
si seulement Dieu vous en disait.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et donc nous sommes sur Allegre FM 93.1 et j'en profite pour remercier les techniciens Amazir Amadein Guest et Kumba Falcast. Merci à vous. Et donc nous sommes en train de parler du livre Chronique des temps qui passent avec Nicolas Comment qui est photographe et auteur-compositeur. Et il y a un personnage qui semble sortir du paradigme de ces hommages, c'est Bernard Noël. Il appartient à un autre monde.
Bernard Noël, le poète.
Oui. Tu veux pas l'écrivain, écrivain de livres érotiques, non?
Ah, il a écrit Le Château de Seine, ouais. Mais sous un autre nom, le nom de Urbain d'Orlac. Ouais. Censuré, procès, etc. Qui était un livre... Après, il a écrit un autre livre qui s'appelle L'outrage aux mots, qui était un livre outré, qui était une réaction contre la guerre d'Algérie. Mais effectivement, il a été censuré, etc. Mais c'est un poète également, beaucoup, Bernard Noël. Mais sinon, moi, je crois que c'est très cohérent, au contraire. C'est tous des poètes dans leur genre, que ce soit Ariel, Christophe... Jean-Jacques Schull aussi, dont je parle.
Oui, il y a un autre écrivain. Bon écrivain, bien sûr.
Et Bernard Noël, ouais, c'est une sorte de... Il a beaucoup compté, parce que j'ai eu une longue correspondance avec lui. On s'est beaucoup écrit et j'ai commencé en lui envoyant des photographies. Il m'a répondu. On a fait deux livres ensemble. Il a eu la gentillesse de m'écrire la préface. Et c'était toujours magique de recevoir une lettre de cet homme-là, qui souvent, moi, quand je l'ai côtoyé, mais surtout, ce que je raconte d'ailleurs, surtout à distance comme ça, vivait dans des petits villages loin, situés loin de Paris en tout cas. Donc c'était assez magique, puis il changeait souvent d'adresse. Alors, il y avait des blancs comme ça, parfois je récupérais son adresse, je lui envoyais un mot à tel endroit... Et puis on s'est vu peut-être deux fois pendant des lectures où voilà, la rencontre était superficielle ou mondaine. Et une fois vraiment en tête à tête. Et ce dont je parle dans le livre, c'est cette rencontre au Châtelet sous la pluie. C'était assez beau. Parce qu'il était presque mythique pour moi, hein, tout autant que Bachou ou que les autres personnages que j'évoque dans le livre, peut-être plus même. Aussi, en partie à cause de sa distance, son effacement. J'ai beaucoup aimé sa voix aussi à la radio. C'est quelqu'un de très doux, de très posé. Ses lectures étaient très, très belles. Et sa poésie d'air aussi, très évanescente, très savante. Post-blanchotienne peut-être, mais pas que. Il a ouvert une voie pour moi. Et puis par lui, j'ai découvert le grand jeu aussi. Roger Gilbert Lecomte, etc. Il a contourné un peu le surréalisme. Il a fait ça. Il est assez unique. Sa voix est assez unique, très liée à POL. Alors, il y a aussi la couleur blanche et bleue de tous ses livres. Il y a une suite de livres incroyables.
Oui, le point commun à tous ces portraits, et ça marche très bien pour Jean-Jacques Schulz,
ouais,
c'est l'originalité aussi. Ils ont
oui,
tous,
c'est ça, ouais.
On voit tout de suite leurs traits caractéristiques quand on pense à chacun d'entre eux. Ils ne sont pas du tout formatés, comme on dit aujourd'hui.
Je pense qu'il y a une liberté.
Ils ont tous une forte identité. Enfin, une forte identité, ce n'est pas une question d'identité, mais ils ont tous une pratique extrêmement particulière et en dehors de tous les standards.
Ce n'est pas, comme disait Godard, des professionnels de la profession.
Absolument, oui.
C'est des gens qui dévient, qui prennent des chemins de traverse, qui... comme Jean-Jacques, qui ne se définit pas comme écrivain, alors que c'est peut-être un des plus brillants écrivains vivants du pays. Mais pour lui, il est ajusteur, monteur, il colle. C'est pour ça que j'ai photographié ses mains aussi.
Il élève le dilettantisme au grand art. Il a
alors c'est ça aussi. Et la magie aussi de micro-événements, de rencontres, il a fait tout un livre, là aussi. Il a su capter sa compagne, Gabène. Ouais. Il a un livre entier sur sa femme.
Rose Poussière. Déjà, le titre, il est magnifique.
Rose Poussière, il capte Zouzou, par exemple, la danseuse. Ouais. Zouzou, c'est chez Castel.
Il me fait penser à Jean Eustache, mais je ne sais pas si...
Ah, mais si, bien sûr. Ils étaient très amis. C'était un des meilleurs amis de Jean Eustache.
Et là aussi, la cinématographie de Jean Eustache, enfin, c'est comme ça. Ça aurait pu être un des portraits que tu as fait.
Il est mort beaucoup trop tôt.
C'est gens très particuliers.
J'avais envie de rencontrer Philippe Garrel, en fait. Ouais. Là, j'ai clos, parce que je fais d'autres chroniques. Puis à un moment, ça deviendrait une recette. Ouais. Mais je m'étais dit, ah tiens, peut-être Philippe Garrel, que je ne connais pas, en fait. Donc j'apprécie beaucoup. Et Jean-Jacques aussi le connaît. Et puis il y a Nico aussi, quand même, la chanteuse, en point commun. Mais Jean Eustache, deux personnages de La Maman et la Putain, joués par Léo, dit parfois des phrases que lui disait Jean-Jacques. Jules.
Ouais, ça ne m'étonne pas, ouais, bien
donc
sûr.
C'était vraiment très très proche. Ouais.
Ouais, c'est des choses. Et donc on va bientôt avoir fini. Alors il y a quelqu'un qui est plus connu, enfin plus. Étienne Dao, c'est une autre.
Ah oui, alors on pourrait le.
Une autre surface.
Ouais, on pourrait le distinguer des autres artistes peut-être à cause de son immense succès, quoi. De son immense popularité. Ouais. C'est passé. La rencontre avec Dao s'est faite grâce à Bruno Chiban, qui en fait a publié un livre, un essai, il y a un an et demi sur Dao qui s'appelait Dao Vision, écrit par Sébastien Monod, qui est sorti aussi chez Mediapop. D'ailleurs, à peu près le même format. Et puis pour ce faire, il m'a proposé d'aller rencontrer Sébastien, qui avait une collection, un vrai aficionados. Dao maniaque, avec tout collectionné de Dao, donc tous les objets, les cassettes, les 45 tours, machin. Donc j'ai fait des photos comme ça, purement de nature morte. Et puis ensuite, il m'a dit que ce serait bien de faire des photos d'Étienne lui-même. Quoi. Et on s'était croisés il y a 10 ans chez mon éditrice à l'époque, quand j'ai le premier disque que j'ai fait, là dont je vous parlais. J'ai tout de suite eu une éditrice qui m'a très vite présenté Étienne parce qu'elle était sa manageuse dans les années, je ne sais plus, 80-90. Et donc, on s'était vu un soir. On avait beaucoup parlé d'ailleurs de Philippe Pascal, de Marquis de Sade. Mais je ne l'avais pas revu depuis. Et puis, c'est vrai que la photo est un vecteur souvent pour moi de rencontre. Pour le timide que je suis, c'est une sorte de bâton de sourcier qui me mène sur des chemins, qui me fait m'approcher de personnalité parfois. Et donc, pour faire ces photos, Dao m'appelle. Oui, salut, c'est Étienne, avec sa voix de champagne, de coucher de soleil, comme dit Lou Reed. Beau compliment de la part de Lou Reed. Donc, je le reconnais tout de suite. Il n'a pas besoin de dire son nom de famille. Et puis là, on discute un peu. Je sens qu'il me teste, il hésite. Il me dit, mais tu veux faire ça dans un studio? Et je lui dis, non, je ne voudrais pas ça du tout, mais plutôt un portrait un peu mental ou psychique, je ne sais pas, d'un lieu qui serait... Il m'a emmené à l'hôtel La Louisiane, qu'il avait connu adolescent, et qui avait été déclencheur, quoi, quand il venait de Rennes, il dormait parfois dans une chambre. Et qui est un lieu mythique à Paris, hein, où ont vécu plein de gens, de Juliette Gréco, Miles Davis, en passant par... Nico, etc. Albert Cossery. Et on va là-bas et c'était le mois de juin, parfaitement. Pas d'attaché de presse, pas de maquilleuse, pas de. Et voilà, je sais pas, on a parlé là. C'est une rencontre, il a raté un train le soir même. Et j'ai vu que c'était une personne très sincère et qui justement était un vrai artiste aussi. Et s'intéressant à une culture très underground, qui était la mienne aussi. Voilà, mais c'est vrai qu'il est presque le plus célèbre de tous les... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas écrit de chronique, comme j'avais fait beaucoup de photos de lui. On a même fait une expo ensemble. Il y a un catalogue à part, il y a un livre entier qui s'appelle Hôtel des Infidèles, parce qu'il avait écrit une chanson sur la Louisiane qui partait de la chambre où il allait adolescent, qui a donné lieu à une chanson qu'on a restituée dans l'hôtel avec les photographies que j'avais fait de lui déambulant dans l'hôtel, une sorte de mise en abîme. Et donc les photos parlaient d'elles-mêmes, je trouvais. J'avais envie qu'il y ait aussi une chronique plutôt visuelle que textuelle.
Et c'est marrant parce qu'on vient d'écouter une chanson qui s'appelait La Chambre.
Ah ouais, ouais.
Et à propos de fans, de collectionneurs, Vincent Vanoli, qu'on a entendu au début, a publié à Chic Media, j'avais complètement oublié, un album dont je ne me souviens pas, mais c'est des dessins avec des couvertures de vinyle. Et il y en a 600, je crois, ou 500.
Je dois l'avoir.
Et voilà. Donc tu as un livre de Vanoli, donc le
Oui, parce que je croyais ne pas connaître.
Et tu vois, c'est vraiment le truc des fans avec des groupes, enfin toutes sortes de groupes évidemment. Quand on en met 500, on ratisse large. Il y a aussi des choses pour les. Oui, parce que le Barkitsad, par exemple, il a évidemment, il a un fan club enamouré.
Ah bah oui, alors là ils ressortent un album.
Ah, il y avait Vincent Taylor dans ton.
Ah oui, à propos t'as oublié Vincent Taylor.
Oui, bien sûr, avec les. Alors,
dis Vince ou Vince, toi, en belge, en bruxellois?
En bruxellois, je dis Vince.
Ouais,
mais t'as. Non, je dis Vince Taylor.
Tu dis Vince.
Vince.
Ouais, parce que par exemple, Christophe, on avait plein de discussions là-dessus, disait Vince aussi.
Mais moi, ils ont beaucoup de facilité, les Flamands, avec l'anglais. Donc, par exemple, moi, j'allais voir les films d'Elvis Presley quand j'avais 16 ans. C'était mon époque. On a fini, donc on va passer l'antenne à cause commune. C'est formidable, ton livre. C'est des sujets dont on pourrait parler pendant des heures. Nous étions sur Allegre FM 93.1 et nous passons l'antenne à cause commune. Merci, à mardi prochain. Et regardez les chroniques du temps qui passe de Nicolas Comand, publiées à Mediapop Edition et Chic Media. Merci.
Allegre FM 93.1.